Je m'appelle Éric Péclet, j'ai 44 ans, je suis marié et père de 4 enfants. En novembre 2016, j'ai été accusé à tort du viol d'une élève de 4 ans d'une de mes classes. Et pour ça, j'ai fait plus de 4 mois de prison. Donc le lundi 14 novembre 2016, j'arrive sur une classe de gens lisses pour un remplacement. Et c'est le remplacement de la directrice qui est partie pendant 15 jours en formation. Ce début de remplacement se passe très bien. Sauf que mercredi soir, j'ai un coup de fil un petit peu curieux de mon inspecteur de l'éducation qui veut savoir si tout s'est bien passé en début de semaine, ce qui n'est pas très habituel, mais je lui dis que oui, tout s'est bien passé. Et le jeudi, il me rappelle pour me demander de passer le voir à l'inspection, et c'est là où je vais apprendre que une tache de sang a été retrouvée dans la culotte d'une petite, et ça concernait une journée de travail. Et cette journée qui était donc le lundi, je n'avais pas été seul sur le poste, on avait été deux enseignants, donc j'ai pu rassurer mon inspecteur de l'éducation en lui disant que s'il y avait le moindre soupçon, il n'y avait pas de possibilité d'imaginer que j'ai pu faire quoi que ce soit à un élève. Donc je suis ressorti un petit peu de cette entrevue mal à l'aise, parce qu'évidemment ça touchait quelque chose qui pour un enseignant est une vraie angoisse. C'est l'idée d'accusation de cet ordre-là, et j'ai toujours été dans ma vie extrêmement prudent. Je me suis jamais retrouvé seul avec un enfant, j'ai toujours eu des gestes où on pouvait pas voir d'ambiguïté. Et le jour même, au moment où je vais signer une suspension au rectorat de Dijon, eh ben je suis accueilli à la sortie du rectorat par deux gendarmes qui me mettent en garde à vue. La garde à vue va donc durer près de 48 heures. On va arriver jusqu'au samedi. Et puis au bout de la garde à vue prolongée, je suis emmené devant le juge. Et puis j'apprends qu'on est en train de statuer sur le fait de m'envoyer ou pas en prison. Et alors là, c'est le monde qui s'écroule, parce que pas un moment, je m'étais imaginé qu'il était possible de faire de la prison. Pour moi, il y aurait une enquête. On peut pas aller en prison quand il n'y a aucun élément. Et si. Je rentre en détention le 19 novembre 2016. Et donc pendant des semaines, je vais affronter seul le cauchemar, parce que là c'est la fin du monde, hein. Pour moi, je me dis de toute façon on peut pas y avoir d'après, pas de coup de fil avec ma famille, je les revois pas avant longtemps au parloir, donc je suis juste dans une espèce de gamberge permanente, j'ai le mental qui tourne sans arrêt, on se refait toutes les journées, on essaie de retrouver un élément qu'on pourrait apporter, on essaie d'avoir prise sur quelque chose mais on a prise sur rien. Où j'enrage en prison en pensant que je suis dans la main de quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut de moi. J'ai plus aucun pouvoir, c'est une catastrophe. Et en février, donc un peu plus de 2 mois après, je reçois un courrier de l'Éducation nationale qui m'apprend qu'on a décidé de mettre fin à mes salaires. Et par la suite, il va falloir que mon épouse et ma famille quittent le logement familial. Elle va pouvoir loger auprès de sa famille. Et donc, il y a vraiment un basculement qui a lieu à ce moment-là, quoi. Le gros choc qui va m'attendre aussi, ça va être une demande de libération refusée, bien évidemment, puisque le juge est toujours le même. Mais par contre, il y a un appel de cette demande, et moi je suis persuadé à ce moment-là que quand le dossier va passer entre les mains d'autres personnes que ce juge qui s'est fait son idée, que les personnes en question verront que les paroles d'accusation ne tiennent pas parce qu'elles sont changeantes, c'est-à-dire il n'y a rien, et il y a au contraire des éléments pour dire que j'ai été entouré en permanence. Donc je me dis quand une cour d'appel va voir ces éléments-là, mais évidemment que je vais sortir. Pour moi, ça fait aucun doute. Et quand j'apprends que la cour d'appel maintient la décision du juge et que je reste en prison, là, c'est un coup assez dur parce que je me disais que dans ce genre d'histoire, il y a des fusibles. Je pensais à Outreau, je me disais depuis, il y a eu un peu des conclusions de tirer et que, évidemment, quand quelqu'un part du mauvais côté, il y a d'autres fusibles qui permettent d'arrêter la machine. Et quand je m'aperçois que je suis pas face à une personne, mais face à un système, et que ce système va se tenir les coudes, et que là, vraiment, je dis pas que je panique, mais au niveau du moral, ça devient très dur parce que je me dis, là, je ne sais pas quand je vais sortir. Et effectivement, il y aura d'autres demandes de libération qui seront à nouveau rejetées. Et finalement, au bout de 4 mois, mon avocat, lors d'une rencontre, me dit, écoutez, j'ai plutôt des bonnes nouvelles, le ton a l'air de changer, le juge me demande en gros de faire une demande de libération prochaine. Donc, je me dis, bah, formidable. Et sur le coup, j'ai même du mal à comprendre qu'est-ce qui, d'un seul coup, alors que la pression était très forte sur moi, d'un seul coup, ça s'inverse. Je vais apprendre l'existence d'une expertise ADN qui est tombée et qui révèle l'existence de sperme dans la tache de sang de l'enfant, dans la tache du viol, et que ce sperme appartient à un membre très proche de la famille, et ce proche ayant été même le seul adulte à être resté seul avec l'enfant ce jour-là. Donc à ce moment-là, on a à peu près toutes les certitudes concernant ce qui s'est réellement passé. Et suite à ma libération en mars 2017, je vais être envoyé à près de 500 km de ma famille pendant plus de 3 mois en contrôle judiciaire où je vais devoir pointer au commissariat d'Aix-en-Provence. Mais pour le coup, je suis à résidence chez mon frère. La vraie bonne nouvelle pour moi va avoir lieu en novembre 2017 puisque la cour d'appel de Dijon va enfin infirmer une décision du juge d'instruction en m'accordant le statut de témoin assisté, en levant toutes les charges, en disant qu'il n'y a aucune charge contre M. Péclet. Et là, c'est vraiment un soupir de soulagement, même si je sais que l'histoire n'est pas finie, que le véritable agresseur n'est pas encore mis en cause, parce que finalement, non seulement j'attends un non-lieu pour que l'histoire soit derrière moi, mais si c'est un non-lieu sans avoir mis en cause le véritable agresseur, je me dis, on va rester avec un flou dans cette histoire. C'est une affaire qui peut esquinter considérablement tout ce qu'il y avait de beau avant. Mettre de la salissure, enverser du fumier et faire qu'on ne s'en ressorte pas. Mais heureusement, j'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui n'ont pas été esquintées. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Par contre, il est vrai aussi que c'est une histoire qui traumatise et que je me retrouve incapable de pratiquer le métier pour lequel j'étais fait. Maintenant, c'est fini parce que je ne peux même pas m'imaginer dans une classe sans commencer à me dire mon mental et ma... Je vais cogiter, je vais me dire mais est-ce que demain on va venir me chercher parce qu'un élève se sera amusé à raconter un truc. C'est... Une fois qu'on l'a vécu et qu'on le sait, c'est juste plus possible. Donc, avec le rectorat, on a fait en sorte de me trouver un poste du côté du numérique éducatif. Ça me permet de travailler sans être au contact des élèves. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui va me manquer parce que le fait de pouvoir transmettre et de sentir surtout le moment où l'élève a compris grâce à nous quelque chose, ça n'a pas de prix. C'est un petit peu ça le salaire de l'enseignant. C'est de sentir que son action a permis à l'élève de lui ouvrir une porte dans la tête, de le faire avancer, de prendre confiance. Et ça, je sais que je l'ai perdu, ça.